dans la définition du livre d'artiste, il s'agit effectivement plus du domaine des arts plastiques. Et que certains plasticiens, en relation aussi avec des auteurs, peuvent aborder. Pour moi, dans la définition telle que je l'imagine, effectivement, il s'agit essentiellement du domaine des arts plastiques et des beaux-arts. Voilà. La poésie concrète a fait appel à livre, mais je dirais que la poésie concrète, c'est un genre particulier, mais à un moment donné, on est dans la filiation de l'écrit. Et là, c'est quelque chose de plus habituel, même si ça prend une autre forme. On évoquait les courants du début 20e aussi, qui ont été révolutionnaires sur la question de l'écrit et du récit. Mais une fois de plus, pour moi, le livre d'artiste, c'est vraiment lié à la pratique des plasticiens.
Pour recenser bien toutes les œuvres de livre d'artiste, est-ce que c'est des choses qui sont finalement assez disparates par maison d'édition, où il peut y avoir des organismes qui regroupent bien ce que l'on peut appeler livres d'artistes, des institutions, où il peut y avoir des fondations qui...
Alors, ce que je tiens à dire déjà, c'est que sur la question de l'édition et des éditeurs, on a énormément d'éditeurs, ce qu'on nomme les éditeurs indépendants. Qui sont des petites maisons d'édition avec peu de moyens et qui justement s'inscrivent dans cette lignée du faire avec une petite économie. Pour revenir aux lieux qui peuvent en fait fédérer ces pratiques, que ce soit la pratique d'artistes qui s'auto-éditent, ça c'est aussi une réalité, et de ces maisons d'édition plus ou moins conséquente. Il y a effectivement des lieux, il y en a un très connu qui est un centre d'art donc national, qui est en région parisienne, qui jusqu'à aujourd'hui est à Chatou. C'est le CNAI, le CNEAI, donc dirigé par Célie Boulanger. On a à Saint-Yrieix-la-Perche avec Didier Mathieu qui a créé un lieu qui est le centre du livre d'artistes également en Limousin. Et voilà, ce sont quand même les deux grands centres qui sont identifiés. Après, certains FRAC comme le FRAC Bretagne, qui est Fonds Régional d'Art Contemporain. Je peux peut-être mettre une petite définition sur ce qu'est un FRAC.
Oui, oui, oui.
Un FRAC, ce sont donc ces Fonds Régionaux d'Art Contemporain qui ont été créés par Lang en début des années 80 et qui, jusqu'à la réforme territoriale pour les régions, a fait apparaître en fait une institution par région avec la vocation de produire des œuvres d'art, de commander des œuvres d'art à des artistes dits locaux et internationaux et de constituer des collections emblématiques qui puissent être diffusées sur le territoire régional. Aujourd'hui, le statut bouge un peu de fait des fusions de régions. Mais pour revenir au FRAC Bretagne, donc la collection du FRAC Bretagne a mis un focus sur le livre d'artiste. Voilà. Après, on a certaines médiathèques ou bibliothèques qui ont des fonds de livres d'artistes historiques. Donc, je parlais des modernes, mais il y a aussi des fonds qui remontent beaucoup plus loin dans l'histoire. Mais par exemple, on a un très beau fonds à la bibliothèque de la Pardieu en Rhône-Alpes. La bibliothèque Kandinsky à Beaubourg a un très beau fonds de livres d'artistes. Donc, ils continuent des acquisitions pour rester dans une pratique contemporaine. C'est le cas aussi de la BNF, qui a au-delà d'avoir les dépôts légaux qui sont et qu'ils ont déjà ce corpus qui a été constitué sur la base du dépôt légal, ils ont aussi un fonds d'acquisition de livres d'artistes qui pour eux sont suffisamment emblématiques et de par leurs auteurs, les artistes, et de par aussi un parti pris artistique posé par une maison d'édition. Et puis, il y a quelques médiathèques liées à des musées, dont une que je connais bien, qui est la médiathèque de Toulouse, qui est reliée aux abattoirs, et qui a aussi une politique d'acquisition assez offensive et assez courageuse. Voilà.
Ça peut dépendre des fois aussi politiques et des personnalités politiques qui peuvent être en place dans les régions, qui peuvent impulser aussi...
C'est plus en fait une question de direction artistique des lieux. Voilà. Bon, après, le fait qu'il y ait un centre national du livre d'artistes en région parisienne, ça a été, c'est une émanation de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est apparu qu'il était, il y a une typologie de lieux qui devait apparaître sur cette forme-là. Un FRAC, c'est pareil. C'est une question de direction artistique qui a été donnée. Okay. Et du coup, ensuite, on constitue une collection. Donc, une collection, elle doit être cohérente et elle doit quand même s'inscrire dans la durée.
Alors, en ce qui concerne Capture Édition, de quelle manière travaillez-vous ? Vous avez privilégié plusieurs axes identifiés pour travailler avec les artistes.
Alors,
quand on parle de livres d'artistes, ça...
L'histoire de livres d'artistes, effectivement, pourquoi avoir créé ma maison d'édition ? J'étais sur le point de quitter Art3, où j'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, engagé une politique du livre d'artistes, qui là avait été, je peux en parler deux minutes si
oui,
vous voulez,
bien sûr.
Une politique qui est poursuivie d'ailleurs par Sylvie Vogic, la directrice d'Art3. Moi, quand je suis arrivée à Art3, il y avait une politique, il y a toujours une politique de résidence destinée à des jeunes artistes qui sont issus d'écoles d'art de la région Rhône-Alpes, fortement soutenue par la région Rhône-Alpes. Et dans ce croisement d'artistes européens, on avait, je pense que c'est toujours le cas, une somme qui était dédiée à une publication, petit catalogue. Et la caractéristique de ces artistes qui viennent en résidence, c'est qu'ils ne sont effectivement pas trop connus puisqu'ils sortent des écoles. Et moi, assez rapidement, j'ai proposé à ces artistes de plutôt privilégier en tout cas une forme singulière et de se rapprocher du livre d'artiste. Parce que le petit catalogue d'une petite monographie, quand on a peu d'heures de vol, entre guillemets, c'est assez fréquemment le classement vertical. C'est-à-dire que le livre, tout comme le reste, doit être soigné pour qu'on y porte un certain intérêt. Donc ça a été ma première volonté. Comme je vous l'ai dit, j'avais été formée, entre guillemets, par une artiste qui avait cette pratique. C'est-à-dire qu'on a aussi des artistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui auto-édite, mais il y avait aussi le livre fait main, c'est-à-dire dans la pratique du Mellart, on fait un livre et on en fait un certain nombre et on en envoie un certain nombre et on en garde au moins un exemplaire. Mmh. Mais c'est aussi quelque chose qui constitue tout un corpus et toute une ligne d'un travail. Donc en tout cas, pour revenir à Art3, j'ai proposé donc aux artistes et j'avais défini trois formats qui pour moi étaient des formats standards et qu'on retrouvait assez fréquemment. Et du coup, je proposais aux artistes de réaliser un livre dans l'un de ces trois formats pour avoir une collection. Ça a été quelque chose que j'avais décidé d'emblée et que la majorité a accepté, en tout cas a répondu à cette proposition. Alors quand j'ai voulu le livre, pour moi c'est quelque chose d'ancien, c'est-à-dire comme beaucoup de personnes, j'ai un rapport avec le livre depuis l'enfance. C'est les heures passées dans le noir ou des journées entières à lire, c'est fouiller les greniers des grands-mères ou des grands-pères pour trouver des vieux bouquins. Et donc c'est une passion déjà pour cet objet-là. Et le livre d'artiste, pour moi, permet vraiment un croisement entre cet amour du livre et cet amour de l'art, entre guillemets. Donc un croisement entre ces deux domaines. Et après cette expérience à Art3, j'avais des contacts effectivement avec des artistes et je me suis dit que j'avais, donc de toute façon c'était une certitude, je voulais continuer cette aventure autour du livre et je l'ai continué avec des artistes avec lesquels j'étais déjà en relation et avec lesquels il y avait des projets naissants. Donc je leur ai assez rapidement dit, voilà, je suis en train de créer ma maison d'édition, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on continue à réfléchir ensemble? Et ça s'est créé très spontanément de cette manière-là. Donc le premier artiste avec lequel j'ai travaillé avec Capture, c'était William Cantridge, que j'avais rencontré en 2004 à l'occasion d'une invitation qui avait été formulée par quatre structures culturelles de la ville de Valence, voire cinq, la Poudrière, école de films d'animation, l'école d'art de Valence, l'école des Beaux-Arts, ce qui s'appelait le CRAC à ce moment-là, qui aujourd'hui se nomme le Luxe, le musée des Beaux-Arts de Valence et Art3. Et comme Artois avait cette spécificité déjà autour du livre, chacun lui avait proposé quelque chose. Et chaque structure lui avait proposé un axe de travail. Et moi, tout de suite, je lui ai proposé de réaliser un livre d'artiste. À ce moment-là, on avait fait un folioscope, qui était la forme la plus commune par rapport à sa pratique autour du film d'animation. Et comme il était satisfait du travail qu'on avait fait ensemble, on s'était dit, on fait un deuxième livre. Et ce deuxième livre, en fait, est né avec Capture. Alors, par exemple, quand on parlait du choix des artistes, il y a des artistes comme Kantrich pour lesquels la pratique du livre est quelque chose de pratiquement immédiate. Parce qu'il a une pratique du dessin, donc en fait le dessin, effectivement, on peut très vite retrouver cette forme sur l'espace, sur la page imprimée. Et en même temps, il fait beaucoup de catalogues, de livres d'artistes. Il en a très peu fait. Il me le disait encore récemment qu'il en a fait un avec Artois, un avec Capture et un avec le MACBA, Musée de Barcelone. Sinon, on est parfois dans ces catalogues, dans un croisement entre le livre d'artiste et le catalogue, entre le livre d'artiste et le catalogue. Une chose qui me vient en tête, pour revenir aussi sur cette question du livre d'artiste, ce qui caractérise aussi le livre d'artiste, bon, effectivement, c'est une forme œuvre qui naît sur cet espace-là ou sur ce lieu-là, puisque pour moi, le livre est un lieu, qui est donc le livre. Donc, mais en même temps, pour vraiment faire la distinction avec d'autres genres, c'est que contrairement à un catalogue, on n'est pas sur la reproduction systématique d'une œuvre, puisque l'œuvre prend forme sur l'espace de la page, sur un rapport texte et iconographie. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de global. Et c'est vraiment ce qui distingue d'un catalogue. Alors après, parfois, on a vu certains catalogues qui, dans leur forme, se rapprochaient du livre d'artiste. Mais là, je m'éloigne un peu. Vaut mieux voir pour pouvoir en parler. Donc, c'est pas le cas de la radio. On ne pourra pas voir. Mais ça a été le premier artiste. Et ensuite, j'avais échangé avec Matt Mullican, qui est aussi un artiste international. Avec lequel j'étais en dialogue et avec sa galeriste à Barcelone. Et on avait commencé à cheminer sur l'idée d'un livre d'artiste qu'il avait envie de réaliser avec nous et avec la graphiste avec laquelle je travaillais à ce moment-là, qui est Jocelyne Frachebout. Et parce que ce qu'on avait jusqu'alors réalisé lui plaisait bien. Mais donc ça, c'était le deuxième artiste, qui est un livre parfois difficile d'accès, qui là, en fait, reprend en fait toute une trajectoire et qui est un fac-similé de ces carnets de notes qui rend compte en fait de toute une pensée qu'il a traversée depuis qu'il a commencé à travailler en tant qu'artiste. Ensuite, il y a eu Jessica Stockholder. Donc, à chaque fois, ces artistes trois premiers artistes, qui sont tous des artistes internationaux, certains je les connaissais ou j'avais déjà travaillé avec eux, et il y a l'idée, il y a le désir en fait de donner une forme d'une œuvre sur ce support qu'on est en train d'évoquer. Mais je dirais que il n'y a pas de commande spécifique, c'est vraiment la rencontre pour une production entre un éditeur et un artiste. Et il y a ce cheminement autour de la forme qui est caractérisé par différentes étapes. Il y a l'idée première qui est retravaillée, rediscutée, souvent, parfois beaucoup rediscutée. C'est le cas avec Jessica Stockholder, où on est parti dans un abécédaire, mais qu'elle voulait vraiment d'une certaine forme. Mais moi, j'estimais qu'il fallait vraiment approfondir certains aspects pour qu'il y en ait quelque chose de solide. Quand on arrive à un moment donné à plus de précision, on va très vite aussi rencontrer un imprimeur pour voir aussi la faisabilité de certaines propositions. Donc c'est vraiment un travail très étroit entre cette idée première qui est discutée entre un éditeur et un artiste. C'est un travail aussi avec le graphiste qui là, pour moi en tout cas, c'est le rôle d'un graphiste, va se mettre son savoir-faire entre guillemets au service de la pratique artistique et non pas faire valoir sa propre créativité. Enfin, il l'a fait valoir, mais à travers celle de l'artiste. Et puis l'imprimeur qui va nous dire parfois, il y a aussi toujours la question de l'économie. Un livre, ça coûte cher. surtout les livres, surtout ça, enfin certains livres d'artistes coûtent cher, et donc de dire, ben là, on part dans une direction qui, voilà, qui est trop onéreuse. Il y a aussi le choix du papier, je veux dire le type de couverture. Donc tous ces aspects-là sont très importants pour la forme finale et l'objet livre que l'on a en main dans le toucher, parce que pour le livre, c'est aussi un toucher et c'est aussi une odeur. Voilà.
Ça demande une bonne culture de la part de ceux qui fabriquent le livre aussi. Pour justement appréhender au mieux la forme la plus idéale pour l'artiste. Comment choisissez-vous les artistes ? En fait, il y a vraiment, par exemple, ceux avec qui vous avez pu travailler auparavant, certains vous paraissent peut-être plus que d'autres en phase à la réalisation d'une œuvre type livre d'artiste.
Certains artistes, comme je dis, ont cette pratique de manière assez régulière. C'est le cas, par exemple, de Matt Millican, dont j'ai parlé tout à l'heure. William Kentridge, il fait beaucoup de lithographie, mais quelque part, le livre d'artiste est quelque chose qu'il utilise peu. Mais il en a fait. Si, il y a un très beau livre qu'il a fait à partir d'un dictionnaire, mais qui, du coup, là, est utilisé aussi comme support d'un film. Jessica Schokolder avait fait des très beaux catalogues, quelques livres d'artistes, mais c'est pas quelque chose qui fait partie de sa pratique régulière.
Donc vous l'avez un petit peu aussi
stimulé. Je l'ai un
stimulé.
Peu poussé, voilà. Et ensuite, dans la pratique, en tout cas, donc c'est ce que je vous disais. Donc après, certains artistes, on les identifie parce qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment présence sur cette question du livre. Et d'autres, ben, on a envie de leur proposer, de par leur pratique, c'est le cas de Kentridge, une pratique du dessin, et du dessin aussi qui prend une forme animée. Du coup, on avait envie de le solliciter pour une création sur ce support. Mais il y a les choix qui sont liés à une observation d'artiste qu'on a envie d'inviter, comme tout directeur artistique va avoir envie d'inviter pour un lieu tel ou tel artiste qu'il a identifié sur la scène de l'art. Donc ça, c'est une première chose. Et puis parfois, il y a eu aussi des rencontres qui sont liées à des choix d'artistes. On a parlé des nouveaux commanditaires tout à l'heure, que j'avais invité dans le cadre des nouveaux commanditaires. Et dans la forme œuvre qui peut être prise, la proposition, on a parfois des œuvres autonomes, donc le film, l'image mouvement, mais aussi parfois le livre. Et donc ça a été le cas de deux artistes qui sont Alejandra Riera, que j'avais invité à Valence pour le quartier périphérique de Font-Barlette, autour de la question de ces quartiers, de ces zones dites sensibles, et donc qui a réalisé un livre et un film qui ont été tous les deux présentés très récemment encore au Centre Pompidou avec la bibliothèque Kandinsky et puis la section département cinéma de Beaubourg. Et Suzanne Burner, qui est une artiste qu'on a invitée dans le cadre de paysages industriels, donc qui croisait la pratique. Quatre artistes étaient invités par quatre parcs naturels régionaux pour répondre à deux commandes d'œuvres sur la question de leur histoire industrielle, avec une entrée sur le paysage, mais qui a été pas mal détournée. Donc, Le Royan et Saint-Jean a été largement concerné par ce programme. Et par exemple, Suzanne Burner, qui a une pratique de la photographie et de l'image, hein, l'image-mouvement, utilise aussi énormément ce support. Et elle fait des petits livres, donc elle est autant dans l'auto-édition que l'édition avec des petits éditeurs, et elle fait de très très beaux livres. C'est une artiste que je connaissais. Et sans que ça soit quelque chose que j'ai sollicité et demandé d'elle, parce qu'un artiste, dans le cadre de la commande, en tout cas à Euville en Lorraine, elle a proposé en fait le support livre comme étant une des œuvres qui a été privilégiée, puisqu'on a eu un film, des tirages argentiques et un livre d'artistes qui ont été présentés. Et là, par exemple, le fonds de Nancy, la médiathèque de Nancy, a souhaité acquérir un tirage de tête. Alors, ça, on n'en a pas parlé, mais un tirage de tête de cette édition pour l'inscrire dans son fonds, puisque ça a aussi un lien avec l'histoire locale. Donc voilà, c'est aussi une entrée, aussi quelque part entre guillemets populaire, le livre, qui peut rentrer dans une bibliothèque. Et comme disait un bibliothécaire anglais qui a été déterminant sur la constitution d'un très beau fonds à New York au MoMA, c'est que aussi peut-être créer la surprise de tomber sur un livre dans une bibliothèque un peu inhabituelle, de susciter la curiosité et de rentrer aussi comme ça dans une œuvre au hasard.
Oui.
Et ça, je pense que c'est aussi... Alors bon, après, les bibliothécaires ont aussi un problème certainement de classification. Mais bon. Mais alors, pour revenir sur les choix, voilà, il y a eu cette possibilité, à travers les nouveaux commanditaires, aussi de réaliser des livres d'artistes. Et du coup, là, Capture est une maison d'édition qui est identifiée et avec laquelle on va travailler. Puisque moi, j'ai deux casquettes. Donc, comme on l'a dit en début, c'est que j'ai cette casquette éditrice et j'ai cette casquette sur ce programme Nouveau Commanditaire. Et je travaille aussi en relation avec les presses du réel, qui sont eux-mêmes éditeurs et distributeurs, diffuseurs-distributeurs, donc qui distribuent donc les livres. Donc, il y a eu parfois des projets de coédition. Il y a, je dirais, un troisième pendant. Alors, du coup, ceci dit, ces livres qui sont créés par rapport à une demande spécifique, contrairement à Kentridge, Millikan, Jessica Stockholder, les trois premiers titres de Capture, on reste quand même dans la facture livre d'artiste. Peu importe après, quand le public découvre ces livres, ils sont parfois ignorants, entre guillemets, que ça a été suscité par une commande assez précise de la part de commanditaires, d'une demande très précise de la part de commanditaires. Par contre, il y a une troisième ligne qui est apparue. C'est un livre qui, pour moi, doit être travaillé de manière très singulière, mais qui est né à la suite d'une commande malheureuse en région parisienne, une commande formulée par des salariés d'un hôpital. Et l'œuvre qui avait été validée par l'ancien directeur de l'hôpital et certains salariés a été remise en cause par des syndicats, syndicats Sud et CGT. Et l'œuvre n'a pas pu être réalisée. Et ce livre, et cet artiste qui est Alain Bernardini, qui a une pratique aussi du livre, a souhaité à ce moment-là faire un livre. Au moins un livre existe en relation avec cette commande. Et Marie-Lyne Mann, qui est médiatrice sur la région Île-de-France, est venue me voir et elle m'a dit « Bon, moi, je ne sais pas faire un livre. Est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous sur ce support ?» Je dis « Ça change, puisque j'ai commencé Capture. C'est pas trop dans la main alignée, puisque moi, j'ai plutôt tendance à choisir les artistes. Cette liste-là, je n'ai pas choisi, même si... Par contre, pourquoi pas ? Parce qu'on rentre dans une dimension discursive. Et du coup, le livre aussi devient lieu du débat, tel que ça avait été formulé. Et c'est intéressant. Mais il faut le travailler de manière singulière, une fois de plus. Et ils avaient fait une pré-maquette. Et là, j'ai dit, par contre, moi, je ne veux pas de cette maquette. Si on travaille ensemble, on reprend tout à zéro. Et pour moi, c'est le rôle de l'éditeur. Voilà. Et ça a donc amené une nouvelle typologie, je dirais, de livres, qui est donc travaillée aussi de manière assez singulière, comme j'ai déjà dit, mais qui, du coup, là, même s'il est travaillé avec un artiste et avec un graphiste, est d'une autre dimension. C'est, pour moi, pas tout à fait le livre d'artiste tel que je l'entends au départ. Et dans cette collection, donc, qui est liée, je dirais, à des commandes, donc il y a des titres à paraître. Il y a un livre qui va être réalisé en 2017 autour du musée de Rochechouart. On avait eu une commande à Rochechouart avec l'artiste Eulalia Baldocera, avec un très beau projet d'une transformation très respectueuse de l'histoire de ce lieu et de ceux qui l'ont constitué, qui l'ont. Et une partie de l'œuvre a pu être réalisée, donc qui a pris la forme d'un film qui devait être projeté dans le lieu et dans sa nouvelle configuration. Mais par contre, la deuxième étape de la réalisation n'a pas pu voir le jour suite au changement donc d'équipe municipale en 2014. C'est aussi la vie des commandes qui parfois n'aboutissent pas. Et j'ai proposé à ce moment-là à l'association des amis de la Maison de la Mémoire du Royan de réaliser un livre Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, le livre est un lieu. Je reprends en fait la définition de Michel de Certeau, mais j'y reviendrai un peu après. Donc, le livre étant un lieu, cette collection, elle doit être valorisée au sein d'un livre qui reprenne aussi son histoire, l'histoire de la maison, mais aussi qui, à travers la représentation de ces objets qui constituent la collection du musée, de faire apparaître en fait le récit qui est associé à ces objets, parce que ces musées de société, je dirais que leur grande vocation, c'est non seulement effectivement de montrer des objets qui correspondent à une identité, à une étape de vie, de l'histoire d'un secteur, d'un territoire, mais ces objets, ce qui est intéressant, c'est de les faire parler. C'est l'histoire que ça raconte, justement. Et je pense que à Rochechinard, on a un conteur né qui est Alain Derbier. Et l'enjeu dans ce livre, c'est aussi de rétablir le récit qu'il a su
entretenir
pendant des années et des années. Mmh.